en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est une grande voix de la chanson française que nous recevons ce jour de fête de la musique. Beaucoup l'ont découverte avec son duo devenu mythique avec Andrea Bocelli ou dans la troupe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Depuis les années 90, elle chante l'amour dans tous ses tons et il n'est pas rare d'entendre la génération Z entonner l'un de ses plus grands tubes, même s'il monte parfois dans des aigus que tout le monde ne peut pas atteindre. Ces dernières années, elle s'est en tout cas beaucoup consacrée aux incroyables talents des autres à travers la célèbre émission de télévision de M6 et la voici de retour avec 11 nouveaux titres qui constituent les épisodes de son 7e album de chansons originales. Il s'appelle Karma. Hélène Ségara est avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Comme un pion sur la planète, un humain dans la bataille, on voudrait que tout s'arrête, mais où veux-tu que l'on s'en aille? Tous ces rêves dans nos têtes, nos corps prisonniers sous la glace, tant d'espoir à libérer pour si peu d'espace vers une autre vie. Tout recommencer, c'est
Hélène Ségara.
Bonjour.
Nos vies commencent ailleurs. C'est avec ce titre que débute cet album qui est votre premier album original depuis 5 ans. Alors on sait qu'on est capable de faire beaucoup de choses, énormément de choses en 5 ans, mais quand même, pourquoi est-ce que vous avez attendu autant ?
Mais parce que j'attendais d'avoir vraiment des choses à dire. J'attendais d'avoir décidé de cette liberté que j'ai reprise, du ton que je voulais employer. Et je voulais pas revenir avec quelque chose de léger ou quelque chose de... Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Cet album m'a pris 2 ans d'écriture, d'orchestration avec Mathieu. Et on voulait vraiment... On a été très, très exigeants. Je pense que quand un album est tellement attendu, on ne peut pas se permettre de décevoir les gens. C'était une grosse pression pour moi.
C'est-à-dire que vous êtes du genre à remettre toujours oui. L'ouvrage sur le métier. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça y est, il faut arrêter, là c'est bon, on a précisément ce qu'on voulait? Il y a un petit détail.
On ne sait jamais, non. Ça, c'est les certitudes, je les laisse pour les autres. Au contraire, les artistes, on est toujours plein de doutes. Et vous savez, à l'origine, il y avait beaucoup plus de chansons que ça sur cet album. Et on en a enlevé, on en a fait des nouvelles à la place. Il y en a certaines qui ont disparu, alors qu'elles étaient au tout départ. Et finalement, on voulait qu'il y ait un bon équilibre.
Ça veut dire qu'il y a des chansons qui sont dans le tiroir et que vous allez peut-être ressortir dans quelques années ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais envie d'aller dans les directions de certaines chansons que j'avais faites et que, après, finalement, les choses avaient trop bougé. Les choses avaient trop bougé pour que je m'y reconnaisse à nouveau.
Pourquoi un album autoproduit, Hélène Ségara ?
Ben, tout simplement parce que quand on écrit un album qui s'appelle Karma et qu'on veut aborder des choses peut-être un peu plus touchy, un peu plus profondes, un peu plus spirituelles dans une société de hyperconsommation, on va dire, on sait très bien que certaines portes peuvent se fermer et que certaines personnes peuvent être frileuses.
Donc, c'est-à-dire que c'est pas assez fédérateur?
Je crois que les gens, enfin, je vois les réactions ces jours-ci. L'album est sorti. On est dans des classements extraordinaires. Les réactions sont très, très positives. Et vraiment, à ceux qui écoutent, je vous en remercie. Mais, donc ça prouve que les gens ont envie d'un message comme celui-là. Mais je crois quand même que, d'un point de vue mercantile, peut-être qu'il y a des gens à qui ça pouvait faire peur.
Donc tout est trop formaté aujourd'hui dans l'industrie musicale.
Peut-être.
On prend moins de risques.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, à travers ces 11 titres, hein, on sent effectivement, comme vous le disiez, vos incertitudes, vos questionnements hein, sur le sens de la vie. Ces incertitudes, ces interrogations-là, elles sont nées, elles sont issues de la pandémie que nous continuons à vivre aujourd'hui.
Non, alors curieusement, cet album qui est a été écrit avant la pandémie, à un moment où je me disais que finalement on arrivait à un instant un peu particulier, où je sentais qu'on était à un moment charnière de notre société, de nos vies, qu'il fallait qu'on se pose de vraies questions.
Il y a eu des indices comme ça qui
oui, vous ont mais fait moi, j'ai, quand j'ai écrit Alteration, je parlais du fait qu'on ait besoin de se déchaîner, de se libérer, de sortir, de danser, de tout oublier. Quand j'ai écrit Tout peut s'arrêter, je savais que quelque chose allait basculer. Quand j'ai écrit Vers une autre vie. Et en fait, finalement, cet album était totalement prémonitoire et tout le monde me le dit aujourd'hui. Mais si on regarde les dépôts SACEM que j'ai fait de mes textes, ils datent vraiment bien de l'avant-Covid, quoi.
Mais pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement, tout ça, vous avez vécu ces moments-là comme un moyen, justement, de prendre du recul, de plonger encore plus qu'avant, peut-être en vous-même, de vous consacrer à l'essentiel?
L'introspection fait partie de mon tempérament de toute façon, mais oui, sûrement le confinement a encore réduit et resserré cet état d'esprit, puisque je me suis enfermée uniquement avec les très très proches et que ben, j'ai beaucoup écrit aussi, et pas forcément que pour l'album.
Aux hommes qui perdent leur route, leur qui cherche et qui doute, aux hommes que plus rien ne touche, sans foi. Aux hommes qui n'ont pas compris leur peur, qui pleurent et se mentent, aux hommes qui n'ont pas
Hélène Segarra, notre invitée aujourd'hui dans VMDN sur RFI à l'occasion de la fête de la musique et de la sortie de son album Karma. Alors expliquez-nous, ça veut dire quoi, Arium?
Arium, c'est un mantra de guérison. Et quand j'ai écrit cette chanson, je me disais, bon, on est tous là à constater tout ce qui est négatif autour de nous. Je m'adresse aux hommes qui n'ont pas appris le bien, qui n'ont pas appris à aimer, qui n'ont pas appris la douceur. Et je me dis, je ne les condamne pas, je leur donne juste quelques mots pour qu'ils guérissent de ça. C'est tout ça. C'est la chanson la plus planante, la plus douce peut-être de l'album, bien qu'elle ait une fin surprenante, puisqu'au fur et à mesure, il y a une boucle qui arrive et qui monte en énergie. On a beaucoup travaillé sur les productions, par exemple, de cette chanson, puisqu'on voulait vraiment que ça soit très apaisant d'entendre ces mots-là.
Oui, les mots peuvent apaiser, la chanson, la musique.
La voix, aussi, oui, bien sûr. Ça a été prouvé que ça a des vertus thérapeutiques. Je crois que si
la musicothérapie, oui, effectivement.
Bien sûr. Et je crois que si on s'adresse à un humain, et même à un animal avec une voix douce, la perception n'est pas la même, l'ouverture n'est pas la même, l'approche n'est pas la même. Et les mots, c'est la même chose. Les mots peuvent blesser, peuvent parfois même tuer, alors qu'ils peuvent sauver aussi.
Est-ce que vous pratiquez la méditation ?
Malheureusement, je vais être très honnête, je n'ai pas le temps. C'est quelque chose que je me suis promis de faire, mais je me recueille beaucoup. C'est-à-dire que quand, par exemple, autour de moi, je vois qu'il y a des épreuves, des gens qui souffrent, j'avoue que je prie beaucoup.
Il y a un côté mystique en Hélène Ségara.
Oui, mais un côté spirituel. Mystique, c'est quelque chose qui est mystérieux, qui n'est pas forcément accessible, alors que moi, c'est assez limpide. Ma foi est venue très tardivement. Je l'ai choisie, on ne me l'a pas imposée. Et en plus, avant ça, j'ai étudié. Je m'intéressais à la théologie, je m'intéressais pourquoi diverses religions, pourquoi divers peuples ont choisi des messagers différents. Et ça m'a donné une vraie ouverture sur le monde et sur les autres et sur les différentes religions qui, à mon avis, devraient nous unir et non nous diviser.
Et ça, c'est une de vos inquiétudes quand on regarde effectivement tout ce qui se passe en ce moment en France, pas seulement en France d'ailleurs.
Moi, je crois que malheureusement, la foi et la religion sont des instruments qui maintenant sont des choses qui sont instrumentalisées et politisées, récupérées politiquement pour dresser les hommes les uns contre les autres. Et peut-être que si un jour on arrive à une troisième guerre mondiale, j'ai peur qu'au lieu d'être politique officiellement, elle soit peut-être d'un point de vue religieux, alors que moi, je chante dans toutes les langues, dans tous les pays et que je peux chanter un Ave Maria dans n'importe quel pays où j'ai été, y compris des pays musulmans. Il faut arrêter de mettre des barrières là où il n'y en a pas.
Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais moi, avant même de savoir que vous aviez la foi, que vous venez de le dire, Hélène Ségara, je me suis toujours dit que vous deviez toujours être très sensible aux énergies du monde, aux énergies de la nature, mais aussi peut-être aux énergies des autres. Est-ce que j'avais raison ?
Bien sûr, mais je pense que parfois les gens ne savent pas exploiter leur propre énergie, ne savent pas la contrôler ou même la ressentir ou même la maîtriser. Je pense que effectivement, l'énergie ou l'aura, ou on peut mettre plein de mots là-dessus. C'est quelque chose qui se partage, mais qui s'enrichit, qui se nourrit. Et je pense que souvent, on doit apprendre à s'entourer de gens qui nous font du bien et qui nous apprennent à devenir ce qu'on a de meilleur en nous. Quand on est aimé, on devient la personne la plus jolie du monde, entre guillemets. On cultive ce qu'on a de plus beau en soi.
Donc vous êtes d'abord sensible aux énergies positives, parce qu'il peut aussi y avoir du négatif autour de certaines
personnes. J'attire les gens mélancoliques, j'attire parfois des gens blessés, parce que j'ai un cœur de maman et que je sais consoler. Donc c'est vrai que j'attire aussi des âmes comme ça, mais je leur explique que c'est un passage, qu'il ne faut pas qu'elles croient que ce passage est une éternité et qu'il faut qu'elles se battent pour que la lumière revienne vraiment. L'obscurité, ça fait partie aussi de nos vies.
Mais quand la difficulté survient, Hélène Ségara, vous êtes plutôt du genre à dire « Eh bien écoutez, il faut lâcher prise et puis on verra bien après » ou vous êtes au contraire plutôt du style battante, voire combattante, il faut se battre pour essayer de conjurer le destin ?
Ça dépend je suis une battante, mais ça dépend en fait de la forme de la difficulté. Quand ça me touche, moi, je me bagarre. Quand ça touche les gens que j'aime, je me bagarre aussi, à vrai dire, oui. Mais c'est vrai que lâcher prise est important, c'est-à-dire qu'il faut accepter parfois la fatalité. Mais quand ça me concerne, je peux l'accepter. Si ça concerne les autres, j'ai un peu plus de mal.
Voilà, je vous posais la question parce que dans l'album, il y a aussi cette chanson-là, « Plus jamais ».
Tous les mots qui nous blessent, les poisons que l'on dit, les regrets qu'on disperse, qu'on laisse dans l'oubli, tous les coups que l'on tait, les silences qu'on brise, les douleurs que l'on sait, les chagrins qu'on attise. On sent-il à présent quand les bruits nous soulèvent, quand on comprend vraiment que son règne s'achève, ce que font les hommes, juste quelques hommes. Qui nous use. Maintenant que l'on sait, maintenant que l'on saigne, au lieu d'avancer, si l'homme abandonne, c'est nous qui aurons perdu nos âmes. Plus jamais ne viens.
Plus jamais, Hélène Segarra sur RFI. Alors ça envoie, hein, comme on dit familièrement, et c'est monté celle-là. Dans les aigus. Hein.
Celle-là, oui, mais justement, par rapport à celle que vous avez diffusée avant, on voit le contraste.
Elle détonne, effectivement, par rapport
aux
autres.
Alors, il y en a d'autres. Hein. En fait, on alterne entre ça. Il y a des choses qui se disent un peu plus en force, et il y a des choses qui se disent dans la douceur, effectivement.
Mais est-ce que, pour vous, chanter, alors c'est pas toujours le cas, mais est-ce que c'est aussi, est-ce que ce doit être aussi une performance ?
Pas systématiquement. En fait, ça dépend ce que la chanson exprime. Et plus jamais, pour moi, c'est un vrai cri. C'est-à-dire que j'ai écrit, finalement, quand j'ai écrit cette chanson, je me disais, on est tous là à écouter nos informations, à regarder nos journaux télévisés. On est témoins de tout ce qui se passe autour de nous et qui nous fait du mal. Mais on a ce sentiment d'impuissance qui fait qu'on est paralysé. On est juste des témoins. On n'est pas les acteurs du changement. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné on se réveille pas? Parce que je crois, moi, profondément en l'union. Je crois que l'union peut bouleverser les choses et peut les faire évoluer. Donc, cessons de nous croire impuissants seuls. Certes, on peut l'être tout seul, mais peut-être essayons de nous comprendre, de nous rapprocher et de faire bouger les choses.
Alors, cette voix hein, qu'on a entendue, cette voix qui a été votre force, elle a aussi été une faiblesse à un moment donné de votre carrière, hein, il y a quelques années, quand on vous a découvert des kystes sur les cordes vocales. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit bah, « plus jamais je ne chanterai ».
On me l'avait dit. En fait, le docteur que j'avais vu à New York m'avait dit que je ne chanterai plus jamais. Mais moi, je crois au miracle, je crois jamais à la fatalité.
Vous n'avez jamais baissé les bras.
Non, je ne crois pas à la fatalité. C'est-à-dire que je me bats toujours, même si j'ai un énorme coup dur, vous on le disait dans la question d'avant, même si on m'annonce quelque chose de négatif, je crois que la force du mental, la pensée positive, ouvre quand même des portes qu'on ne soupçonne pas.
Donc ce qui ne tue pas rend plus fort, comme disait Nietzsche.
Mais c'est vrai.
Voilà, et vous avez été opéré par un chirurgien que...
Incroyable, qui a innové sur moi, avec un laser, et qui a reçu un prix à Chicago. Avec
voilà, il a sauvé votre carrière, quoi, oui. ce médecin-là. 20 ans après, vous chantez toujours, donc vous continuez à jouer avec votre voix. Est-ce que vous diriez, Hélène Segarra, que la voix, c'est un instrument de musique comme les autres ?
Je ne peux pas dire que la voix est un instrument de musique comme les autres. D'abord parce que si on n'a que la technique de notre instrument... On peut pas faire passer les émotions. La voix, c'est l'instrument de l'émotion humaine. La voix, ça peut exprimer un pleur, une colère, ça peut tout exprimer. Donc, j'utilise mon instrument pour parler de mes sentiments.
Et la grande difficulté, c'est de pouvoir conjuguer justement la performance et l'émotion. Il peut y avoir une contradiction, non ?
Il y a une vraie contradiction qui fait que parfois un artiste peut vraiment se louper sur scène. Moi, ça m'est arrivé d'éclater en sanglots dans une chanson, d'être trop bouleversée. Mais je crois que le public... vraiment à cette clémence et cette compréhension de voir qu'on est que des humains, finalement. Mais c'est vrai que j'aime pas décevoir les gens vocalement non plus.
Alteration dans VMDN sur RFI. Alors dites-nous, Hélène Segarra, qu'est-ce qui vous donne du réconfort?
Ben justement, d'être avec des gens que j'aime, de rire, de lâcher un peu prise, de se faire du bien, de danser, de faire les enfants, de lâcher un peu tous nos soucis, on en a besoin. C'est ce qu'on se disait en off pendant la chanson.
Qu'elle est très festive, cette chanson. Elle est très colorée, donne envie de danser, de sortir, de se dépenser, de se libérer d'une certaine façon.
Je l'ai mise dans cet album pour cela. C'est-à-dire que j'ai pensé à la scène et je me suis dit, ça va être un moment où je vais les entraîner à se laisser aller, à s'amuser, à tout lâcher. Tout simplement parce que les gens ont besoin de ça après tout ce qu'on vient de traverser. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller au spectacle, mais ils ont besoin de danser, ils ont besoin de se marrer. Et moi, j'ai envie aussi qu'il y ait un moment comme ça, très ludique.
Oui, et dans ce titre, il y a aussi ces mots, un peu dedans, un peu dehors, on voudrait changer de décor. Ouais, qu'est-ce que vous voudriez changer?
Qu'est-ce qu'on voudrait changer? Ben, on voudrait changer l'amorosité, déjà. C'est la première chose qu'il faudrait changer, c'est-à-dire que derrière nos masques, on a caché nos sourires pendant des mois et des mois. Et que, par exemple, pour la génération d'enfants qui est venue au monde, ils sont nés sans voir les sourires des gens, sans hug, enfin, sans câlin, sans étreinte, sans bisous. Et moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est les meilleures choses qu'on ait sur Terre. C'est nos sourires, nos bisous, nos câlins. C'est le plus grand réconfort.
Au tout début de la pandémie, Hélène Segarra a beaucoup expliqué qu'il y aurait un monde d'après, qu'il fallait en tirer les leçons, que les choses seraient complètement différentes. Et aujourd'hui, finalement, on n'en parle plus tellement, quoi. Chacun aspire plutôt à retrouver le monde d'avant. Faites partie de cette catégorie.
Ça nous a peut-être permis de toucher du doigt que le monde d'avant, il a des bons côtés aussi, mais en tout cas, il ne faut pas se laisser déshumaniser. On n'est pas des machines, on a des émotions, on a des ressentis, on a besoin du toucher, on a besoin d'étreinte, on a besoin de se prendre dans les bras. Et ça, c'est une vraie souffrance. Quand plus personne ne le fait, on parle pas des gens qui ont vécu le confinement tout seuls, quoi. Mais il y a des gens pour qui ça a été terrible, cet isolement.
Et le monde d'aujourd'hui, vous le voyez en bleu parce que l'iconographie de l'album, c'est bleu. Qu'est-ce qui vous a conduit à dire que cet album-là, c'était un album bleu?
On a beaucoup travaillé sur le visuel et l'image, sur toute l'esthétisme de l'album. C'est un vrai gros travail, même le choix de la police qu'on a créé, etc. Mmh. Tout simplement parce que quand on regarde cette pochette, je suis on dirait que je flotte, mais on ne sait pas si je suis dans l'eau, on ne sait pas si je suis dans les airs. Mais il y a une vraie symbolique à ça, c'est-à-dire qu'on est entre deux mondes, on est entre le monde terrestre, entre le monde spirituel. On est ça, on n'est pas que des corps, on est aussi des âmes. Et aussi, pour aller plus loin, par exemple... Un fœtus qui est dans le ventre de sa maman est dans un monde. Il vit dans ce monde aquatique, entre guillemets. Et quand il quitte ce monde, il meurt de ce monde pour arriver dans un autre monde qui est notre monde terrestre. Alors peut-être là, on va très très loin dans l'explication, mais il y a plein de symboliques cachées dans les visuels choisis. Et chacun a le droit d'y voir ce qu'il veut.
Mais pourquoi le bleu?
Pourquoi le bleu? Pourquoi pas? Pour moi, le bleu, ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime... les cieux, l'eau, enfin, c'est surtout les cieux, quoi. Mais pourquoi vous l'interprétez comme ça?
Parce que j'aime beaucoup ce bleu, effectivement, qui est en contraste, effectivement, avec le noir, et ça donne effectivement une impression à la fois très classe, mais effectivement, on ne sait pas trop s'il faut se raccrocher à la terre, à l'air, à l'eau. Enfin, on a vraiment, c'est ce que vous disiez,
C'est un mélange d'éléments, mais aussi avant que le soleil ne pointe son nez le matin. À l'heure du crépuscule, comme ça, souvent, quand l'obscurité de la nuit se retire, il y a une espèce de bleu comme ça qui apparaît avant que le soleil n'apporte une autre couleur. Mais c'est vrai que c'est assez timide, mais c'est une belle lumière.
Et le monde d'aujourd'hui, c'est aussi le monde virtuel, le monde des réseaux sociaux. Et vous l'abordez dans une chanson au titre évocateur, Illusion dans le système.
On vit sur la toile et on ne sait plus qui on est. Se croire un peu spécial, se perdre et rêver. Nos vies sont trop banales pour savoir où nous raccrocher. Dans un monde abyssal, on croit oublier. Illusion dans le système, virtuel et connecté. Sur les couples de problèmes, sans regret, nous a dépassés. Illusion dans le système. Juste un peu trop formaté. Des hommes et des femmes
Dans le système, nouvel extrait de Karma, le nouvel album de notre invitée Hélène Segarra. Quel usage faites-vous des réseaux sociaux ?
Eh bien écoutez, je suis bien obligée d'y être parce que je trouve que quand on a un public aussi fidèle, on se doit d'être quand même présent aussi en retour. Mais j'ai toujours dit que les réseaux sociaux, que tous ces outils internet qu'on a, sont des outils. Nous ne devons pas être leurs esclaves. C'est eux qui doivent nous servir, pas nous qui devons être asservis.
Vous êtes de ceux et de celles qui pensent que les réseaux sociaux hystérisent le débat public, apportent plus de haine et d'affrontement, ou qui constituent au contraire une sorte de soupape et d'occasion de se rencontrer même virtuellement?
Les deux, parce que finalement, on s'aperçoit que l'anonymat crée peut-être la liberté de plus afficher, d'afficher davantage son aigreur ou sa rancœur ou sa haine, on l'appelle comme on veut. Mais ça permet aussi à des gens peut-être de se libérer de plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même un peu légiférer, parce que moi je suis pas trop attaquée sur les réseaux sociaux, et tant mieux, je suis reconnaissante. Mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui sont des proies, qui sont en proie à des choses terribles.
Il faut être attention à ce que vous publiez.
Oui, je fais attention à ce que je publie, mais je veux pas non plus tout calculer, etc. Moi, encore une fois, c'est un outil de travail, mais j'informe mes fans. Là, aujourd'hui, j'ai fait un post tout à l'heure parce que le clip a fait beaucoup de vues et que je voulais les remercier, mais voilà, ça s'arrête là. Je poste rien de privé, je poste pas mes enfants, etc. Parce que là, c'est autre chose, c'est mon jardin secret.
Et l'amour virtuel, Hélène Segarra, qu'est-ce que vous en pensez, les applications de rencontres, etc.
C'est pas mon truc, je suis trop romantique, moi.
Oui,
je suis
ça s'entend dans quasiment toutes vos chansons.
Non, mais je pense que je trouve ça assez triste que la génération soit nourrie à ça, c'est-à-dire qu'ils pensent. Mais je crois que le fantasme de tous les jeunes aujourd'hui, ils ont accès à la sexualité, ils ont même accès à la pornographie. Et pourtant, je crois que leur fantasme le plus secret, c'est d'être aimé un jour vraiment, c'est de connaître un grand amour. Je crois que une personne, un garçon, dès qu'il est aimé profondément, tout change dans sa vision, dans sa vie et même dans l'énergie qu'il va déployer à vivre. Donc c'est ça que je vous souhaite, c'est pas de rencontrer des gens sur des réseaux qui savent rien de vous, qui cherchent même pas à savoir qui vous êtes, comment est votre cœur, comment est votre âme, qui ont juste envie d'avoir des photos à poil de vous. Je pense que ça c'est un peu facile, mais malheureusement c'est générationnel parce que c'est vraiment le cas. Mais je sais pas si ces gens-là sont très épanouis avec ça. En tout cas, c'est très éphémère.
Bon, chanteuse romantique, vous le disiez, Hélène Segarra, l'amour reste de toute façon une source d'inspiration majeure pour vous. Sur l'album, il y a une chanson intitulée tout simplement « I love you ».
Oui.
D'ailleurs, mais on a tous en tête quelques-uns de vos plus grands succès. Allez, pour les fans, justement.
Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Trop de gens qui t'aiment.
Quelques-uns des plus grands succès d'Hélène Segarra qui est avec nous dans VMDN sur RFI. Et s'il y a quelqu'un, on parlait des nouvelles générations il y a un instant, hein, qui connaît par cœur tous ses titres et sans doute bien d'autres encore, c'est la chanteuse belge Angèle.
Eh oui.
Qui était une fan absolue quand elle était
gamine,
ouais. Et qui l'est restée, visiblement. Je crois que vous l'avez rencontrée déjà, ça y est,
bien
ça s'est fait.
Bien sûr, plein de fois, oui, oui.
Voilà, et on a évoqué l'idée d'un duo avec elle, c'est toujours dans les tuyaux ?
C'est pas dans les tuyaux actuellement, vu son emploi du temps et le mien. Hein. Ça, c'est... Je sais que les fans me l'ont demandé mille fois, mais... Là, quand on a des agendas, moi, je reviens avec une nouvelle saison d'émissions télé, plus une tournée qui va faire énormément de dates, et elle est aussi plus que dans les starting blocks. Ouais,
donc ça va attendre encore quelques temps, mais
exactement.
L'idée restera dans l'air. Quoi.
L'idée de se faire plaisir, on a déjà partagé un duo sur la scène de l'Olympia, c'était chouette. Donc l'idée n'est pas éteinte, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas l'espérer immédiatement.
Bon, j'ai lu qu'un rappeur aussi voulait faire un duo avec vous,
oui,
confirmez.
Oui, oui, oui.
C'est qui ?
Ben, je peux pas le dire.
Ah, ben pourquoi ?
Ah, ben parce que c'est pas fait.
C'est pas fait. Bon, d'accord. Là aussi, c'est des petits espoirs pour vos fans, sans doute. Enfin, on va voir. Vous parliez à l'instant de La France a un incroyable talent, hein, donc votre l'émission de télévision à laquelle vous participez. On voit ce que vous apportez aux autres, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous,
l'émerveillement, cette expérience-là ? L'émerveillement, le côté ludique, on s'amuse énormément, on est ébloui, on est touché, on passe par tout l'ascenseur émotionnel qui existe. Et je dois dire que c'est une vraie émission populaire et moi je trouve qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à la popularité, c'est-à-dire qu'un programme qui fait rire tout le monde, qui touche tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les origines, moi j'adore ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de caste particulière, ça s'adresse à tout le monde.
Et parmi les chansons les plus populaires, justement, il y a les fameux duos. Alors là, on a entendu celui avec Laura Pausini, et aussi évidemment Vivo Perlei avec Andrea Bocelli. Vous deviez d'ailleurs retourner sur scène avec Andrea Bocelli.
Oui, ça va se faire en 2022, bien sûr.
Ouais,
oui,
janvier 2022, ouais, ça avait été repoussé à cause de la pandémie, avec un orchestre symphonique, c'est
avec
ça ?
Avec un symphonique, exactement.
Voilà. C'est quoi les secrets d'un bon duo ? Qu'est-ce qui fait qu'entre deux artistes qui se connaissent bien ou qui ne se connaissent pas du tout, eh bien l'alchimie peut prendre.
Il y a eu une vraie alchimie, c'est vrai, c'est le mot. Ce qui est fou, je ne sais pas si vous le savez, c'est que Vivo Perlei a existé dans d'autres pays avec d'autres chanteuses dans d'autres langues et qu'il n'a jamais autant marché qu'en France, et quasiment pas marché dans certains pays, et pourtant avec des grandes chanteuses. Et j'ai cherché l'explication à cela. Et j'ai écouté les duos dans d'autres langues où il y avait des chanteuses très 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 puissantes vocalement. Et en fait, je crois que cette impression de puissance des deux côtés, c'était trop. Je trouve que la complémentarité de ma douceur vocale et de sa puissance à lui, ça a créé une vraie osmose. Et après, quand on s'est rencontrés, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui ressent énormément les choses aussi. Donc voilà, la chimie a été complète.
Il vous avait dit qu'il allait vous porter bonheur, Andrea Bocelli. Finalement, il a eu raison.
Mais oui. Bon. Il me l'avait dit les premiers jours qu'on s'est rencontrés, puisque je démarrais ma carrière quand même quasiment. Et il m'a dit, tu verras, je porte bonheur.
Bon, quasiment, parce que il y a quand même eu quelqu'un d'autre avant qui vous a aussi beaucoup porté. C'est Orlando.
Bien sûr, oui, mais pour toujours. J'étais avec lui hier soir, donc vous voyez. non, bien sûr que.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Orlando? Là, on revient au tout début, hein, évidemment.
Mais vous savez, il m'a apporté ce que moi aujourd'hui je fais constamment finalement, c'est-à-dire de regarder quelqu'un et au lieu de critiquer et de voir ce qu'il y a de mauvais, essayer de voir le potentiel qui sommeille dans la personne et les trésors qui sont cachés. Et c'est ça. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est, si je vous regarde, vous, aujourd'hui, de me dire qu'est-ce qu'il y a dans cet homme, qu'est-ce qu'il y a de plus riche, de plus intense. Et finalement, le fait de mettre ces points-là en avant, ça change tout. Ça change tout pour la personne, ça lui donne confiance, ça lui redonne beaucoup de force pour reprendre son chemin. Et parfois, il suffit de rien, mais c'est un déclic pour beaucoup de personnes. Et je l'ai fait pour beaucoup de jeunes artistes, je l'ai fait pour beaucoup de gens aussi dans la vie. Je crois dans les autres, je cherche toujours à croire aux gens.
Et la tournée Notre-Dame de Paris, là aussi, c'est un souvenir, un beau souvenir. Vous jouiez le personnage d'Esmeralda, évidemment. C'est quelque chose qui compte pour vous, la comédie, le théâtre, le cinéma. Vous en avez jamais fait, ou alors ça va complètement pas échapper.
On m'en a proposé, mais
ça vous tente pas?
Si, mais j'ai refusé des projets qui ne me ressemblaient pas, tout simplement. Non pas que j'ai envie d'incarner une chanteuse, ça je l'ai refusé aussi.
Ah oui.
J'ai envie d'incarner quelqu'un qui soit porteur de sincérité et de sensibilité, parce que je me vois pas faire autre chose. Pour moi, Notre-Dame, c'était facile à interpréter au niveau du jeu, parce que quand je chantais un Ave Maria païen, où je demandais que les barrières entre les hommes s'effacent, que nos différences s'effacent, parce que quand je chantais vivre pour celui qu'on aime, ou parce que il y avait tout un message dans Notre-Dame de Paris, c'est fou, parce que en plus il est très contemporain encore, ce message, mais très actuel. Mais donc j'étais portée par cette histoire. Donc j'ai besoin d'être portée par une histoire. On me propose du théâtre régulièrement, on me propose des fictions. Mais jusqu'à maintenant, le seul projet qui m'a intéressée, qui était vraiment très très beau, ben les droits n'ont pas été obtenus.
Bon, un jour peut-être.
Et puis pourquoi pas.
Merci beaucoup Hélène Segarra d'être venue nous présenter ce nouvel album Karma. J'ajoute que vous serez en tournée à l'automne, hein, le 17 septembre à Enghien-les-Bains, les 25 et 26 au Trianon de Paris. Ça continue jusqu'au 11 décembre et ça reprend au printemps.
Oui, il y a beaucoup de dates et je les annoncerai sur mes réseaux sociaux.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et même si tout se brise, si je me traîne et soudain m'enlise, j'ai cru savoir qui je suis avec nous. Mais c'est sombre, mais c'est sombre. Encore les doutes s'invitent et le sort reprend tout l'équilibre. Quand je pensais tenir tout de nos jours, mais c'est sombre. Mon amour, si j'ai perdu mon âme, j'ai touché le sol, que les anges accompagnent ce chagrin dans mes veines que j'avais cru. Si je dois avoir
Ses ombres, Hélène Ségara qui était notre invitée aujourd'hui dans VMDN. Allez, un peu de littérature avant de se quitter. Sortez les épées, les larges chapeaux de feutre et les capes. Amélie Beaucourt nous emmène au pays des mousquetaires. Les deux auteurs jeunesse Jean-Philippe Arouvignaud et François Place co-signent un roman d'aventure palpitant dont l'héroïne, ça change, est une jeune femme en quête d'émancipation sur les routes du sud-ouest de la France. Écoutez.
Lancée à toute vitesse dans la vallée de l'Azéan, une voiture se fait brutalement stopper par des brigands. À son bord, il y a Olympe, la toute jeune marquise, sortie du couvent par son oncle qui veut la marier et ainsi récupérer les terres dont elle est l'héritière. Mais profitant de l'accident, elle prend la fuite et va tout tenter pour reprendre son destin en main, comme le raconte Jean-Philippe Arouvignaud.
C'est souvent une histoire de mec, les romans de KPDP. Et on avait envie que ce soit une héroïne et de raconter ce que c'est quand on a 16 ou 17 ans à l'époque, qu'on est une fille, qu'on est orpheline, donc on est sans protection, sans rien, de pouvoir exister comme un être indépendant, désirant, soucieux de choisir son destin. Je trouve que ça fait écho à notre époque, cette problématique, fortement. Alors qu'on est au XVIIe siècle dans notre livre, il y a des échos avec notre époque.
Et pour l'accompagner dans sa quête, les auteurs ont placé sur son chemin un duo insolite. Le capitaine Décembre, vieux soldat borgne fatigué, et Oust, un jeune marin naïf et mystérieux. L'équipe s'élance dans l'Azéan, c'est comme ça que les auteurs ont appelé cette région imaginaire, mais inspirée d'un endroit bien connu.
En fait, on avait envie d'une Gascogne, parce que cette Gascogne, c'est celle qui nous habite depuis qu'on est petit, grâce aux Trois Mousquetaires et à D'Artagnan qui vient de Gascogne, c'est celle de Cyrano de Bergerac, des cadets de Gascogne, voilà. Mais on voulait pas s'enfermer dans un lieu précis, on voulait l'inventer complètement. Sauf que quand vous co-écrivez avec quelqu'un, les inventions qui sont les vôtres ne sont pas forcément les siennes. Parce qu'à un moment donné, je fais passer mes personnages par un pont qui se trouvait en amont de tel village, et François m'a dit, mais c'est pas possible du tout ça. Ce pont est forcément en aval. C'est pas très important. Il m'a dit, si, attends, je t'envoie la carte. Et il a fait la carte de ce lieu totalement imaginaire. Moi, c'était vraiment un espace complètement fictif, inventé, qu'il fallait rendre vraisemblable. Mais après tout, quand on tourne à droite ou à gauche, ça n'avait pas d'importance. Pour lui, c'était extrêmement précis. Et c'est ça peut-être qui donne sa cohérence au lieu et qui fait croire qu'il existe fortement et vraiment.
L'intrigue est située au milieu du XVIIe siècle, dont on retrouve les traces tant dans le langage des paysans que dans la tradition de chasse aux sorcières, dont la jeune Olympe va d'ailleurs faire les frais. François Place.
C'est vraiment à cette époque-là qu'on pourchasse, pour des raisons de superstition, les femmes qui sont un peu dérangeantes. Alors la plupart du temps, c'était plutôt des vieilles femmes qui étaient au bord des villages, à l'écart des villages, qui connaissaient un certain nombre de recettes de médecine comme ça, naturelle. Olympe, c'est une jeune femme, alors c'est plutôt la tentatrice, c'est plutôt la vouivre, celle qui entraîne les hommes dans le désir dangereux. Mais malgré elle, on sent que c'est pas du tout son propos ni son intérêt pour l'instant, mais voilà, elle joue de ça et ça lui joue des tours.
Le livre est ponctué par des illustrations légères, tout en nuances de gris, dont seul le dessinateur a le secret.
Déjà, il y a une règle, il faut pas que les illustrations freinent la lecture. Il faut que quand on les lise, peut-être que ça donne une espèce de parfum, ça donne des images qu'on n'a pas forcément formées dans sa tête. La scène dans le pigeonnier, je ne sais pas si un jeune lecteur, un adulte sait ce que c'est qu'un pigeonnier, mais un jeune lecteur, est-ce qu'il a une image vraiment de ce qu'est un pigeonnier ? C'est pas évident, donc je pense que là c'est important de le représenter, voilà, des choses comme ça. Mais il ne faut pas que ça vienne occulter le rythme du texte, ça vienne gêner le lecteur dans sa lecture. Donc, s'il y a des moments forts, c'est pas forcément cela qu'il faut illustrer.
Un roman d'émancipation avec des personnages très fouillés, à découvrir aux éditions Gallimard Jeunesse.
C'était la fine lame de VMDN, Amélie Beaucourt. Dans une poignée de secondes, de l'info sur RFI. À demain, avec du théâtre. Cette fois, nous irons au Vieux Colombier à Paris, où la troupe de la Comédie Française présente En attendant les barbares, d'après le prix Nobel de littérature sud-africain J.M. Coetzee. Avec nous, les deux metteurs en scène, Camille Bernon et Simon Bourgade. Et vous m'en direz des nouvelles.